Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Bienvenue dans l'émission Un livre, un auteur. Pascal Lereste à l'antenne, ethnologue et directeur de collection chez l'éditeur parisien L'Harmattan, pour vous servir. Un livre, un auteur, une émission mensuelle d'une heure pour découvrir l'univers d'un auteur autour d'un de ses livres. S'immerger pas à pas dans les représentations vécues de celui qui écrit, dans le monde qu'il active, qu'il met en mots, en musique. Telle est mon intention. Et pourquoi ? Mon but, vous donner envie de rentrer dans l'objet livre, en comprenant mieux les ambitions de celui qui écrit, les centres d'intérêt qui président à la construction de son ouvrage. Un livre, un auteur, reçoit un invité par mois et se concentre principalement sur des auteurs publiés chez L'Harmattan, plus grand éditeur indépendant de France. Ces auteurs seront parfois euréliens, parfois américains ou coréens. Bref, ils viendront de partout. Ce seront parfois des auteurs que j'ai pu publier, mais pas toujours. L'éclectisme est le signe de l'émission et les genres proposés iront de l'essai au roman, du récit de vie à la poésie. Une émission mensuelle, comme un rendez-vous pour une rencontre, une belle surprise. Une heure par mois pour être touché, ému ou réfléchir, et se surprendre à vouloir lire quelque chose d'enfin différent, le livre d'un auteur. Et aujourd'hui, nous recevons Michel Leroy sur Radio Grand Ciel, qui nous présente son livre « Le procès de Madame Bassarabo » avec un sous-titre « La ténébreuse affaire de l'Amazone Rouge » publié chez L'Harmattan en 2018. Alors, première question, Michel Leroy, qui êtes-vous ?
Eh bien, d'abord, je n'avais pas vocation à m'occuper de cette affaire judiciaire et littéraire. Je suis un universitaire, plutôt spécialiste du 19e siècle. J'ai fait une thèse sur le mythe jésuite, c'est-à-dire la façon dont les jésuites étaient perçus, et chacun sait qu'ils étaient plutôt mal perçus, à travers la littérature, et plus particulièrement la littérature du 19e siècle. J'ai une carrière de professeur, d'inspecteur général, de recteur d'académie, dans plusieurs académies. Madame Bassarabo, je l'ai découvert dans des conditions assez singulières, dont je pourrais peut-être vous parler.
Ah, tout de suite.
Il y a à peu près quelques décennies, sans doute plus de 40 ans, je visitais Paris. J'adorais me promener dans Paris. Je faisais une visite-conférence avec quelqu'un qui nous conduisait rue Blanche. Et puis, à un moment, il s'arrête devant le square La Bruyère. Et là, il nous dit, voyez, il y a dans le square La Bruyère une maison qui est une maison un peu maléficiée, qui a connu beaucoup de malheurs successifs. Tous ses occupants ont connu des drames. D'ailleurs, dans cette maison, aujourd'hui, cet appartement aujourd'hui est abandonné, dit-il. Bien, j'avais pris quelques notes. Il me parle de cette madame Bessarabo qui, dit-il, avait une poétesse qui avait assassiné son mari et l'avait découpé, dit-il, et mis dans une malle. Bon. J'avais pris des notes, comme j'aimais le faire à l'époque. J'oublie ces notes. Et 40 ou 45 ans après, en faisant un pan de rangement, au moment de préparer ma retraite, je redécouvre ces notes. Mais tiens, qui est donc cette Madame Bessarabou ? C'est une poétesse. Elle a dû laisser des écrits, donc laisser quelques traces à travers l'histoire, l'édition. Et c'est là le miracle d'Internet. C'est-à-dire que en quelques clics, j'ai pu découvrir au moins quelques informations, à vrai dire assez ténues, sur Madame Bessarabo, en réalité Bassarabo, puisque c'est son véritable nom, en tout cas le véritable patronyme de son mari. Je découvre assez vite qu'elle était connue sous un nom de plume, Hera Myrtel. Je peux voir dans le catalogue de la Bibliothèque nationale qu'elle a en effet publié quelques romans, des recueils de poèmes. Et puis, je découvre, avec un peu de mal d'ailleurs, son vrai nom, qui est Louise Grouès. Avec un peu de mal parce que, en réalité, même sur Internet, il y avait très peu de traces, sauf sur quelques sites anglo-saxons qui avaient pu s'intéresser à elle. Et je découvre que c'est une militante féministe qui, à l'époque, dans les années 1900-1920, avait occupé des fonctions très importantes. Elle avait beaucoup écrit, milité, créé un journal. Et en poursuivant mes recherches, je découvre qu'elle appartenait à une famille très connue, la famille Grouès, et qu'elle est la tante de l'abbé Pierre. Et là, je me dis qu'il y a tout de même quelque chose d'étrange, il y a une énigme. Comment une femme qui a eu ce destin, une femme qui avait la sensibilité d'une poétesse, une femme qui appartenait à une famille connue pour son dévouement, pour sa piété, avec cette personnalité lumineuse de l'abbé Pierre, comment cette femme a-t-elle pu commettre un crime de cette nature? Et c'est au fond l'énigme que j'ai cherché à résoudre. Sans doute il est apparu qu'elle était coupable, encore que il y avait beaucoup de zones d'ombre qui subsistaient, et j'ai eu la chance de découvrir qu'il y avait des archives, que ces archives, depuis 1922, n'avaient jamais été ouvertes. 7 cartons d'archives dans les archives judiciaires aux archives de Paris. Et ça a été un moment d'émotion extrêmement fort lorsque j'ai ouvert ces cartons, desserré quelque peu les scellés, parce que c'était des scellés judiciaires, et la poussière du temps, à ce moment-là, est remontée jusqu'à moi, avec des manuscrits, avec des photos de famille, des objets matériels extrêmement émouvants, comme une boîte dans laquelle il y avait des pièces à conviction, les traces d'un portefeuille qui avait été brûlé. Donc à ce moment-là, je me suis dit, il faut faire un livre, il faut faire connaître cette histoire et essayer de comprendre le parcours de cette femme. Parcours dramatique, bien sûr. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire à travers les quelques années où j'ai travaillé sur les manuscrits, sur les archives, sur les textes publiés.
Bien, alors voilà comment s'ouvre le livre, parce qu'il n'y a pas que, Madame Bassarabeau, il y a aussi la victime de Madame Bassarabeau, en tout cas c'est comme ça qu'on entre dans le livre. La soudaine disparition de Georges Bassarabeau, alias Jacques Bessarabeau, avait très vite semé l'inquiétude. Beau pour sa concierge, Georgie pour ses intimes, Bassa pour ses amis, Ismaël Jacob Providence Weissmann pour l'état civil, sujet roumain naturalisé français, c'était un homme d'entreprise aventureuse à l'identité mouvante, d'un commerce agréable et d'un abord avenant, léger en amour comme en affaires. Ce samedi matin, Édouard Croix, son chauffeur habituel, l'avait vainement attendu. Depuis quelques jours, il le conduisait dans la capitale avec sa limousine. Vendredi soir, après l'avoir laissé à l'angle de la rue Saint-Lazare et de la rue Blanche, il l'avait vu se diriger à pied vers son domicile. En descendant de voiture, son patron lui avait recommandé de l'attendre le lendemain matin à 9h30 devant ses bureaux, 67, rue de la Victoire, près de Chaussée-d'Antin. On entre dans le livre. Alors il y a Madame Bassarabeau, dont on va parler tout à l'heure, mais alors il y a ce personnage, Georges Bassarabeau. Qui est-il et méritait-il de mourir?
Alors certainement, il ne méritait pas de mourir. Ce n'était pas un personnage tout à fait ordinaire non plus. Ce n'est pas un personnage d'une honnêteté scrupuleuse, c'est évident. Sans doute, piètre mari, homme d'affaires assez douteuse. Mais bien entendu, c'est une victime. Ça, nul ne peut dénier le qualificatif de victime le concernant. C'est un mariage tardif, second mariage. Louise Grouès, à l'époque veuve, le rencontre au Mexique. Ils sont à ce moment-là pris tous les deux dans la révolution mexicaine, coincés près de Mexico. Ils ne peuvent pas quitter les environs de Mexico. Et Louise est là avec ses deux filles. Elle va essayer de récupérer une partie de la fortune de son premier mari. Georges Bassarabeau, lui, fait des affaires qui réussissent plus ou moins, et plus plutôt moins que plus. Il a peu de moyens. Il voit cette femme, la prend en pitié et finalement l'épouse.
Il la prend en pitié ou il lorgne sa fortune?
Elle dira qu'il lorgnait sur sa fortune. On peut lui faire crédit d'une certaine mansuétude ou d'une certaine pitié, en effet, pour cette femme et ses enfants pris dans cette tourmente révolutionnaire. Il dira d'ailleurs avec une certaine franchise ou un certain cynisme, comme on voudra, je ne sais pas pourquoi, à 48 ans, je me suis marié.
Ouais.
Il était en effet célibataire. Le mariage, d'ailleurs, très vite, tourne allègre. Madame Bassarabo n'était plus toute jeune à cette époque-là. C'était d'abord une militante, une femme d'action, une femme écrivain, on va dire une écrivaine. Et Georges Bassarabo, lui, était un homme d'affaires qui plaisait beaucoup aux femmes, qui ne se privait pas d'avoir quelques maîtresses et qui fuyait le plus possible son foyer. Parce que le salon de Madame Bassarabo, Square La Bruyère, était devenu, à ses yeux, un essaim de féministes, de littérateurs qui ne lui plaisaient pas beaucoup. Donc il part pour faire des affaires qui réussissent plus ou moins bien. Et c'est là un point important du procès, c'est là un point important de l'instruction. Il va réussir, croit-il, un grand coup. Il va gagner 600 000 francs, ce qui est une somme énorme pour l'époque. Comment va-t-il gagner cet argent? Eh bien, Georges Bassarabo était un commissionnaire, ce qu'on appelait un commissionnaire, c'est-à-dire qu'il achetait et revendait. Il achetait en empruntant de l'argent et c'est ensuite, il espérait satisfaire ses créanciers en revendant. Mais il n'arrivait pas toujours à revendre ou pas toujours à la hauteur qu'il espérait. Et il achetait un peu de tout, notamment dans les années d'après-guerre. Nous sommes dans les années 1919-1920. Il achetait des surplus de l'armée anglaise et américaine. Il achetait des combustibles. Il achetait des spiritueux. Il a acheté un bateau. Il a acheté un château. Et là, il allait réussir un gros coup, c'est-à-dire être l'intermédiaire pour une société pétrolifère. Une société pétrolifère au Mexique. Le Mexique, où les deux épouses étaient connues, où Luis Gruez avait épousé un premier mari. Intermédiaire entre une société barcelonnette, c'est-à-dire de Français de la vallée de Barcelonnette installée au Mexique, la maison Olivier, et puis un pétrolier, un homme du pétrole, une société pétrolifère d'Oklahoma, intéressé par cette affaire. Et il devait récupérer 600 000 francs. On dira ensuite que Madame Bassarabo espérait récupérer ces 600 000 francs, et que c'est pour cela qu'elle l'a tué. C'est d'ailleurs ce que l'accusation retiendra. Sauf que son avocat n'aura pas de mal à dire, son avocat qui est le grand Moro Jaferi, un des meilleurs avocats, un des plus talentueux avocats de l'entre-deux-guerres, dira oui, mais s'il l'a tué, si elle a tué son mari, elle ne pouvait pas récupérer l'argent de la commission. Et les pétroliers qui étaient intéressés diront de toute façon, il n'y avait pas de pétrole sur ce terrain. On n'en a d'ailleurs jamais découvert ensuite. Donc c'était un miroir aux alouettes. Le frère de Georges Bassarabo dira d'ailleurs que ce miroir aux alouettes servait surtout à Georges Bassarabo à rassurer ses créanciers. Il leur disait « Ne vous inquiétez pas, je vais récupérer 600 000 francs, donc prêtez-moi de l'argent en attendant, etc. » Autrement dit, l'une des questions qui se posent, les nombreuses questions qui se posent sur cette affaire criminelle, c'est la question du ou des mobiles.
Ouais.
Car, à vrai dire, on n'a pas pu découvrir un mobile vraiment solide dans cette affaire.
Mais il y a déjà eu le décès du premier mari dans des conditions douteuses. On ne sait pas vraiment si c'est un suicide ou si elle a un rôle. En tout cas, c'est ce que vous racontez. Et bon, même si vous avez une position, en tout cas, on croit la deviner. La réalité, c'est qu'au moment du procès, effectivement, on se dit que c'est étonnant, cette récurrence de morts autour de Madame Bassarabo.
Oui, en mars 1914, le premier mari de Louise Grouès, Louise Jacques à l'époque, est trouvé mort tué d'une balle de revolver à son bureau au petit matin. Il était neurasthénique. Ses affaires se portaient très mal parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'était la révolution mexicaine. Donc les affaires des Barcelonnettes se portaient très mal. Il s'inquiétait pour sa fortune. Il était malade, très sérieusement malade. Ces lettres que j'ai découvertes dans les archives qui sont adressées à sa famille révèlent en effet toutes ses difficultés à la fois financières, morales et physiologiques. Donc il était vraiment malade et neurasthénique. Après, bien sûr, lorsque Georges Bassarabeau a été tué 6 ans après, en 1920, d'une balle de revolver tirée dans la tempe droite, on s'est dit « étrange, étrange coïncidence, est-ce vraiment une coïncidence ?» On sait que les époux du premier mariage, les époux Jacques, ne s'entendaient pas. L'entourage, le voisinage, les bonnes, les concierges témoignaient ou cancanaient. En tout cas, beaucoup de rumeurs couraient. On a dit que Louise avait voulu empoisonner son mari. On trouve même une lettre de son mari disant « elle a voulu m'empoisonner », mais rien n'a pu le prouver. Donc, en effet, on s'est posé la question. On s'est d'autant plus posé la question que le juge d'instruction commis pour le meurtre de Georges Bassarabeau, s'est dit, mais il faut voir ce qui s'est passé réellement lors de la mort de ce premier mari. Et il a fait exhumer son corps. Il fait exhumer son corps, et là, nouvelle stupéfiante, on découvre des lettres qui avaient échappé complètement au commissaire, aux officiers judiciaires chargés de l'enterrement, qui avaient échappé également au médecin légiste, des lettres signées de Paul Jacques, qui toutes, et il y en a une douzaine, ce qui est quand même assez étonnant, datées du jour, de la veille, de l'avant-veille, qui disent toutes la même chose, « Pardonnez-moi, je pars vers l'éternité », etc. Le juge est persuadé que ces lettres sont des faux, qu'elles ont été écrites par Madame Bassarabeau, qui savait en effet imiter l'écriture et la signature de son mari. Ça, on en a des témoignages assez précis. Et il fait donc appel à un expert en écriture. L'expert en écriture, au bout de quelque temps, rend son verdict. Et pour lui, aucun doute, les lettres sont bien de la main de Paul Jacques. Le juge n'en croit rien. Il dit « c'est une erreur, recommencez votre travail », dit-il à l'expert. L'expert recommence son travail, même conclusion, ces lettres sont bien de Paul Jacques.
Ouf ! Une histoire quand même assez romanesque, sur laquelle donc vous avez écrit un ouvrage assez volumineux et qui se lit comme un roman policier. Nous allons faire une pause musicale pour reprendre notre souffle et nous reprenons ensemble avec Michel Leroy tout juste après.
Thank you.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel avec Pascal Lereste dans l'émission Un livre, un auteur, qui aujourd'hui reçoit Michel Leroy, qui vient de publier cette année, donc aux éditions L'Harmattan, Le procès de Madame Bassarabo, avec un sous-titre, La ténébreuse affaire de l'Amazone rouge. Michel Leroy vient de nous raconter de façon haletante certains aspects de cette affaire. Alors, Michel Leroy, vous avez construit votre livre un peu à la manière d'un roman, et vous définissez un certain nombre d'aspects de cette affaire, et nous allons, nous, lecteurs, de surprise en surprise. Nous découvrons un personnage qui, vous la présentez au début comme une meurtrière, et évidemment, il y a rien pour elle, mais vous la présentez au fur et à mesure comme un personnage captivant, avec des dimensions incroyables. C'est une aventurière, c'est une féministe, et c'est une femme qui a eu une importance phénoménale à la fin du 19e siècle et au début du 20e. J'aimerais que vous nous disiez sur quels aspects du féminisme elle est avant-gardiste.
Alors, il faut bien comprendre ce qu'était la condition des femmes à la fin du 19e siècle. La femme était totalement mineure du point de vue civil. Le code civil napoléonien, l'épouse obéit à son mari. Elle ne pouvait pas par conséquent bénéficier de ses revenus. Elle n'avait bien entendu pas le droit de vote. Ça, on le sait au moins jusqu'en 1944. Elle n'avait pas accès à une grande partie des droits civils. Elle ne pouvait pas non plus acter quelque chose sans l'autorisation de son mari. Il y avait un certain nombre de fonctions qu'elle ne pouvait pas exercer sans l'autorisation de son mari. Donc une situation qui était extrêmement, tout à fait insupportable pour un certain nombre de femmes, notamment Louise Grouès, qui très vite avait pris une sorte d'indépendance parce que son père est mort assez tôt. Sa mère ne suivait pas les affaires de son père. Donc elle a été véritablement le chef de famille pendant un temps à Lyon. Et elle a souhaité participer à ce combat des féministes. Le mouvement féministe ne se préoccupait pas, il ne faut pas confondre le mouvement féministe des années fin du 19e et début du 20e avec le mouvement féministe des années 70. Il n'était pas question, par exemple, de droit à l'avortement. Très peu de féministes, il y en avait quelques-unes, mais très peu de féministes étaient favorables à quelque droit que ce soit à l'avortement, même si elles plaidaient, pour certaines d'entre elles, l'indulgence. Il n'était pas question non plus, et surtout après 1900, après la Première Guerre mondiale, de donner quelque droit que ce soit à la contraception. La liberté sexuelle, n'en parlons pas. Il s'agissait d'obtenir des droits civiques, civils et sociaux égaux entre les hommes et les femmes. C'est en tout cas cela qui était souhaité. Même le droit de vote n'était pas considéré comme prioritaire par un certain nombre de féministes. Alors, Louise Grouès, elle va s'engager dans ce mouvement dès son retour du Mexique, puisqu'elle a passé 8 ans au Mexique dans des conditions assez aventureuses, où elle découvre un certain nombre de réalités sur la situation des femmes, et notamment des femmes indiennes. Et elle s'engage avec l'ardeur, la passion, la combativité qui la caractérise dans ce combat. Mais elle ne s'engage pas dans l'aile la plus modérée du féminisme. Non, elle va s'engager dans l'aile la plus radicale du féminisme, c'est-à-dire celle qui réclame non seulement l'égalité des droits, mais qui revendique une identité féminine et plus même qu'une identité, une supériorité féminine. Elle dit, courant féministe qui est assez minoritaire, courant dit parfois matriarcal, qui est assez peu étudié par l'historiographie du féminisme, dit « le monde qui nous a été livré a été abîmé par les hommes ». La violence, la société patriarcale est une société nuisible, nous en voyons les conséquences, et naturellement la guerre de 1914 viendra conforter cette idée. D'ailleurs, Hera Mirtel aura des positions pacifistes qui lui seront reprochées, qui étaient extrêmement minoritaires dans le mouvement féministe. Supériorité, par conséquent, de l'identité féminine au nom d'un matriarcat, d'un âge d'or du matriarcat qui aurait existé, qui aurait été renversée par les hommes, qui, par le biais de la religion, aurait pris le pouvoir. En quelque sorte, la déesse mère est remplacée par le dieu terrible et tout-puissant. C'est leur vision des choses. Elles définissent un féminisme scientifique en révisant l'histoire, en disant tout ce qui a été prétendument inventé par les hommes. En réalité, ce sont les femmes qui l'ont inventé. Pour prendre un seul exemple, l'Odyssée n'a pas été écrit par un dénommé Homère, mais par Nausicaa. Elle reprend d'ailleurs là, les thèses de Samuel Butler, qu'on a du mal à prendre au sérieux, mais qui était réellement considérée comme assez véridique par les féministes. Donc elle s'engage dans ce mouvement dit du féminisme amazoniste, du féminisme matriarcal, féminisme à volonté scientifique. Et elle crée un journal. Elle crée un journal avec toutes les difficultés que cela présentait, notamment les difficultés matérielles, parce qu'elle ne bénéficiait que des moyens de son mari. Inutile de dire que son mari ne voyait pas d'un très bon œil les activités féministes de son épouse. Et à un moment, il dit « ça suffit, on arrête ». Et pendant 4 ans, elle a tenu à bout de bras, à la fois financièrement, intellectuellement, administrativement, un journal mensuel qui s'appelait « L'Entente », l'entente entre les mouvements féministes, l'entente entre les hommes et les femmes.
Et donc, il y a aussi, là concernant, la question de sa vie d'auteur, qui est effectivement extrêmement compliquée au début du XXe siècle quand on est une femme. Alors, elle y consacre tout, elle s'y consume totalement dans cette écriture, jusqu'à son procès, jusqu'à sa détention, jusqu'à sa mort.
Elle a beaucoup écrit, relativement peu publié, en tout cas quelques romans, des recueils de poèmes. Elle a même réussi à faire représenter une pièce de théâtre en 1910, après le voile. Elle avait toutes les difficultés d'une femme qui veut publier. C'était très difficile à l'époque. Ça l'est peut-être encore maintenant, en tout cas pour trouver des éditeurs. Elle a trouvé un éditeur, mais c'était à compte d'auteur. Et tous les ouvrages qu'elle a publiés le furent à compte d'auteur, c'est-à-dire payés par son mari, au moins jusqu'en 1914, c'est-à-dire jusqu'à la mort de son premier mari. Elle a d'ailleurs, certains de ses ouvrages ont été, je pense à certains de ses romans, un roman mexicain appelé Lupita, qui a été recensé par Apollinaire. Elle a eu une certaine reconnaissance dans ses ouvrages, qui ne sont pas sans doute au premier rang de la qualité littéraire de l'époque, mais qui ne déparaient pas la production de l'époque. Ses poèmes s'inspirent beaucoup des poèmes d'Anna de Noailles, mais ils sont d'une honnête facture. Elle a eu quand même beaucoup de mal à se faire reconnaître comme écrivain, d'autant plus que il y avait une résistance assez forte de l'institution littéraire. Je ne parle pas seulement des académies, mais des éditeurs, des journalistes, des confrères écrivains qui s'en prenaient dans des termes d'une violence extrême. Je publie dans mon livre quelques extraits de déclarations ou d'écrits d'hommes écrivains contre les femmes qui avaient la prétention d'écrire, les bas bleus. On n'imagine plus aujourd'hui la violence de ces écrits. Et bien sûr, elle a fait face à cela, parce qu'elle était une combattante, mais vouloir à la fois adopter des positions féministes, publier dans les différents genres, c'est-à-dire des romans, des poèmes, des pièces dramatiques, allier son féminisme et l'écriture, c'était un pari quasi impossible, d'autant plus qu'elle ne bénéficiait pas des réseaux dont bénéficiaient d'autres, les réseaux mondains, les réseaux des salons. Il ne faut pas oublier que Louise Grouès, elle venait d'une petite famille de marchands de soie de Lyon, certes enrichie au Mexique, mais elle avait passé 8 années au Mexique. Elle était donc à l'écart de tous ces courants littéraires, des salons, des revues qui permettaient de se faire connaître. Alors, elle va quand même s'y employer. Elle va écrire dans des journaux, elle va écrire dans des revues où elle occupera des postes relativement importants de décision, mais elle n'arrivera jamais à avoir la consécration littéraire et elle sera constamment en butte aux attaques de ses confrères masculins et même parfois des femmes écrivains, parce qu'il ne faut pas croire que les femmes écrivains avaient beaucoup de considération pour les féministes. Ça aussi, c'est un point, je crois, qu'il faut souligner, c'est que ces femmes écrivains qui arrivaient à percer, je pense à Rachild, je pense à Colette, bien sûr, je pense aussi à Nan Noailles, ces femmes n'étaient pas du tout féministes. N'oublions pas ce que disait Colette à propos des féministes. Elles méritent le fouet et le harem. Colette, qui est le parangon de la femme libérée, émancipée. Mmh. Donc il y avait une espèce de rivalité entre les féministes et les écrivains, d'autant plus que les féministes n'avaient pas beaucoup elles-mêmes de considération pour ces femmes écrivains qui témoignaient d'une certaine liberté de mœurs, dont les écrits étaient parfois un peu scandaleux. Et le mouvement féministe était quand même très, très puritain. Ça, il ne faut pas l'oublier. Influence anglo-saxonne, peut-être. Influence aussi des églises qui jouaient un rôle assez important, enfin, pas tout à fait mineur, dans le mouvement féministe. Et puis, elle ne voulait pas être accusée, comme on leur reprochait parfois, de vouloir jeter le bonnet au-dessus des moulins. C'était pour la plupart du temps des femmes qui avaient eu des maris, enfants, qui avaient connu des désastres conjugaux. Mais elles n'étaient pas du tout en faveur de la liberté de mœurs que prônaient un certain nombre de femmes écrivains.
Bien, nous allons retrouver Hera Myrtel tout à l'heure, après une pause musicale. Et donc, à tout de suite, Michel Leroy.
At the gates of heaven, knocking on the door, Lord, let me in. Oh, I've knocked on the window, I've knocked on the door. Oh, Lord, can you take my soul? No, no, it's full of sin. Key I've got right here won't let you in. Oh, Lord, a little bit longer. Oh, Lord, a little bit longer. Oh, Lord, a little bit longer. A little bit longer till Judgment Day. Please, Gabriel, tell the Lord I'm here. Devil's got me by the coat, talking in my ear. He said you can't get to heaven unless you repent, fool. I said, well, now, thank you, Satan. That's the best news yet. Oh, Lord, a little bit longer. Oh, Lord, a little bit longer. Oh, Lord, a little bit longer. A little bit longer till my judgment day. Judgment Day.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, dans l'émission Un livre, un auteur avec Pascal Lerest, qui reçoit aujourd'hui Michel Leroy, qui a publié chez l'Harmattan le procès de Madame Bassarabeau. Et nous arrivons à notre rubrique Les livres du mois, les cinq livres donc, de ce mois-ci. Nous avons tout d'abord « Quand les eaux montent, mise en patrimoine des crues et des inondations » sous la direction de Alexis Metzger et Jamie Linton. Donc on est là dans un ouvrage de géographe. On a vu donc durant l'automne toutes les catastrophes qui ont pu avoir lieu. Eh bien on a avec ces géographes une sorte d'analyse spectrale sur la manière dont les choses se passent à l'échelle transcontinentale. Donc cet ouvrage, « Quand les eaux montent, mise en patrimoine des crues et des inondations » chez l'Harmattan. Un deuxième livre, donc dans la collection « Ouverture philosophique » chez l'Harmattan. Donc un livre qui s'intitule « Deleuze, philosophe des multiplicités ». Sous la direction de Franck Jedrzejewski, je ne sais pas si je prononce très bien, et Jean-Clé Martin. Je vais lire un passage de ce livre. On le sait, Nietzsche, dans la naissance de la tragédie, oppose Dionysos, le dieu des intensités et du fond cruel de l'existence, à Apollon, le dieu des formes et de la limite, lequel donne une identité et une consistance à chaque individu. Mais ce combat contre se termine encore par un jugement, une réconciliation entre les dieux adverses, qui donne à tous les personnages tragiques leur tenue subjective. Le sujet vraiment existant fait sa rédemption dans l'apparence. Le jugement connaît alors deux fins. Premièrement, les Grecs eux-mêmes ont renoncé à la tragédie en écartant Dionysos, en occultant le monde des intensités au profit des limites apolliniennes. La théorie a remplacé le tragique et les caractères complets de Sophocle ont laissé place, nous dit Nietzsche, à la peinture psychologique de traits de caractère sans consistance, à la caractéristique d'Euripide. Deuxièmement, et à l'opposé, la renonciation active nietzschéenne à la tragédie consiste à libérer Dionysos lui-même, à en faire une force d'affirmation radicale de la vie au-delà de toute personnalisation, de toute intériorité. Dionysos devient ainsi le dieu des intensités, en tant qu'elle s'évalue elle-même dans un combat avec, sans rédemption. Le dieu de la transvaluation, affirmant sans limite le devenir impersonnel du sujet. Alors c'est un ouvrage dans lequel il faut, vous l'avez compris, s'accrocher quelque peu, mais c'est un ouvrage très intéressant dont les différents auteurs donnent à lire les différentes figures de Deleuze et donnent une transcription accessible, hein, parce qu'effectivement Deleuze c'est pas toujours très simple d'abord. Donc je rappelle ce titre, Deleuze, philosophe des multiplicités, dans la collection Ouverture philosophique chez l'Harmattan. Alors un autre ouvrage dans la collection Et si savoir, de Rémy Pain, Homo sapiens, l'aventure humaine de la préhistoire à nos jours. Donc alors un livre qui est assez fantastique, qui fait un peu l'état des lieux donc des origines d'Homo sapiens jusqu'au danger qu'il encourt aujourd'hui avec les menaces de l'environnement. On circule au fur et à mesure de la lecture jusqu'à Néandertal et toutes les nouvelles découvertes qui se font jour aujourd'hui, notamment avec la paléogénétique. Donc un livre très intéressant que j'engage nos lecteurs à découvrir. Homo sapiens, l'aventure humaine de la préhistoire à nos jours. Et justement, pour aller sur l'histoire de Néandertal, nous avons chez Flammarion, de Sylvana Codemi et François Savatier, ce livre, « Néandertal, mon frère, 300 000 ans d'histoire de l'homme » chez Flammarion. Alors, je vais vous lire un premier passage. À la grande stupéfaction des paléoanthropologues, tout a changé en 2010, quand fut séquencé 60% du génome nucléaire néandertalien. Pour sa part, l'ADN intérieur au noyau cellulaire est formé pour moitié par un apport de la mère et pour moitié par un apport du père. Il permet aussi de retracer les lignées masculines dans la mesure où le chromosome sexuel masculin, le chromosome Y, n'est transmis que par les hommes. Or, en comparant 60% du premier génome néandertalien séquencé avec les parties correspondantes des génomes complets de 5 sapiens contemporains issus de différentes parties du monde, les paléogénéticiens sont parvenus à la conclusion que les Européens et les Asiatiques partagent entre 1 et 4% de leur ADN nucléaire avec les Néandertaliens. Pour leur part, les Africains ne partagent aucun ADN nucléaire avec Néandertal. Ces premiers travaux furent confirmés par d'autres plus récents, qui montrent que les habitants de l'Eurasie partagent pas moins de 20% du leur avec Néandertal, même si chacun d'eux en a moins de 3% dans ses gènes. Un métissage entre sapiens et Néandertaliens a bien eu lieu. Alors, voilà, peut-être une lecture un peu absconce, mais pour dire que, au regard des dernières découvertes, eh bien, on a une vision désormais très différente de celle qu'on pouvait formuler il y a encore une vingtaine d'années sur la disparition de Néandertal suite à des massacres avec Homo sapiens. En fait, il y a eu donc un parcours commun pendant quelques milliers d'années. Un dernier passage peut-être. Voilà, pour situer un peu les choses. Selon ces chercheurs, la rencontre entre donc Néandertal et Homo sapiens se serait déroulée dans une fenêtre temporelle de 2500 à 5000 ans, pendant laquelle une mosaïque de population aurait existé en Europe. Il semble donc de plus en plus probable que la rencontre, le métissage entre les sapiens et les Néandertaliens, et la disparition de ces derniers, se sont déroulés en moins de 20 000 ans, entre 60 000 et 40 000 ans. Les sapiens qui pénétrèrent en Europe, à partir d'il y a environ 43 500 ans, étaient déjà le produit de plusieurs hybridations. Néandertal-sapiens au Proche-Orient et en Asie occidentale. Je vous rappelle le livre « Néandertal, mon frère, 300 000 ans d'histoire de l'homme » publié chez Flammarion en 2018. Et puis un dernier ouvrage de la collection ethnographique que je dirige donc aux éditions L'Harmattan, un livre de Louis Falavigna, « Tout le soleil du monde ». C'est un livre donc d'un auteur qui vit désormais donc en Eure-et-Loir, qui vit à Chartres, qui est donc un auteur avec un parcours assez étonnant, homme de théâtre, qui a mis en scène de multiples pièces, qui a travaillé avec les plus grands, y compris avec Albert Camus, qui est aujourd'hui âgé, bien sûr, et qui continue malgré tout donc un parcours d'auteur. Et donc ce livre, le dernier publié dans ma collection, « Tout le soleil du monde », Louis Falavigna, collection ethnographique chez L'Harmattan. Vous êtes sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur avec Pascal Lereste qui reçoit aujourd'hui Michel Leroy pour son livre Le procès de Madame Bassarabeau. Michel Leroy, cette vie de Louise est totalement romanesque avec des morts, le sens de l'exploration, que ce soit en France, au Mexique, des découvertes, des amants. Une exploration littéraire spectrale. Elle va de la poésie au roman. Alors dites-nous, où Louise trouve cette énergie pour être toujours au centre des enjeux ?
Son énergie, elle l'a trouvée pendant ses 8 années d'éducation au couvent, où elle dit volontiers que là, elle a été soumise à un carcan, était éduquée comme beaucoup de filles de cette époque, au couvent, avec des contraintes extrêmement fortes, dans un univers exclusivement féminin. Elle a d'ailleurs refusé au départ d'y être éduquée. Et très vite, elle est une rebelle. Elle est une rebelle, et pendant 8 années, elle va souffrir de cette contrainte, contrainte physique, contrainte intellectuelle, contrainte affective. Elle est très seule. Et dès qu'elle sort, à ce moment-là, des portes s'ouvrent et elle est prise d'une boulimie de lecture. Elle veut tout lire, elle veut tout entreprendre. Et elle a à ce moment-là une énergie qui se libère, qui va être pendant un temps d'ailleurs quelque peu contrainte par les problèmes familiaux qu'elle rencontre. Son frère est parti au Mexique, son père est mort, sa mère n'est pas en très bonne santé, de s'occuper des affaires de la famille. Au Mexique, elle va sans doute bien connaître le Mexique, sans doute mieux que ne le pouvaient les expatriés de l'époque, parce qu'elle va essayer d'aller à la rencontre des Indiens, des femmes indiennes, et elle se passionne pour cette culture. Elle y voit d'ailleurs souvenir du matriarcat dans le pouvoir qu'elle décèle chez les femmes indiennes. Elle s'intéresse à cette histoire, elle s'intéresse à ce pays, à cette géographie, mais en même temps, elle souffre de la solitude. Et quand elle arrive à Paris, à ce moment-là, début de 1900 à peu près, enfin tout début du XXe siècle, à ce moment-là, c'est une libération. Elle s'engage dans une multitude de combats. Elle va s'y brûler. Elle va s'y brûler les ailes parce que pas de moyens, parce que Les obstacles qui sont dressés contre elle sont des obstacles majeurs. Donc elle va se battre contre ces obstacles, elle va se battre contre ses adversaires, y compris d'ailleurs dans les milieux féministes, qui n'étaient pas nécessairement toujours très, très tendres et très faciles. Elle le dit volontiers. Les femmes n'ont pas pas de pire ennemi qu'elles-mêmes. Elle le dit, à la fois parce que les femmes, selon elle, ne montrent pas suffisamment de volonté, d'ambition et d'engagement, alors qu'elles pourraient occuper des positions qu'elles n'occupent pas, et puis parce qu'elles sont divisées. Le mouvement féministe, il est vrai, était extrêmement divisé. La mort de son premier mari, suicide donc, sans doute. Et puis à ce moment-là, il faut qu'elle récupère sa fortune, la fortune de son mari, contre sa belle-famille. Parce que sa belle-famille, à tort ou à raison, est considérée que de toute façon, elle est responsable de la mort de son mari. Alors elle va aller au Mexique, plusieurs fois, pendant la guerre. Elle traverse l'Atlantique à plusieurs reprises, au milieu de la Révolution mexicaine, un moment où les rebelles s'affrontent avec le gouvernement, les rebelles s'affrontent entre eux, avec un courage assez étonnant, ou une inconscience peut-être, mais en tout cas, elle fait front. Elle fait front pour récupérer sa fortune. Quand je dis récupérer sa fortune, je crois qu'il faut bien préciser, pour elle, c'est la fortune de ses filles, car elle a deux filles, et tout ce qu'elle fait, et elle le dira toujours, tout ce qu'elle a fait, y compris peut-être le pire, le crime, c'est pour ses filles. Elle-même vivait sur un pied assez modeste, dépensait assez peu, sauf pour ses activités littéraires. Et là, elle a une vie extrêmement aventureuse, une vie difficile. Elle s'use, une énergie fantastique. Mais alors qu'elle veut ouvrir ses portes, elle se heurte constamment à des murs et à des portes. Et la dernière porte, c'est sans doute lorsque son mari, son deuxième mari, lui refuse l'argent pour alors qu'il a puisé abondamment dans la fortune de sa femme, et il lui refuse les moyens de rejoindre sa fille qui était malade au Mexique.
Alors les portes se ferment sur Madame Bassarabo, mais n'a-t-elle pas aussi un rapport avec ces fermetures? Car quand on vous lit dans le cadre du procès qui va avoir lieu après le meurtre, on voit bien qu'elle prend des positions qui vont à l'encontre de ses intérêts. Elle cherche à publier, à rendre visibles des éléments qui ne l'aident pas, qui vont à contresens de ce qui lui permettrait de s'en tirer à meilleur compte. Elle ne cherche pas en fait non plus à produire la compassion chez les personnes qui l'entendent dans ce procès.
Louise Grouès, Louise Bassarabo, s'est enfermée dans une certaine image d'elle-même, la femme forte. Pas question pour elle de plaider le crime passionnel, car, elle le dit, ses avocats la supplient, mais jouez la carte du crime passionnel, votre mari, vous maltraitez, votre mari, vous trompez. Nous connaissons aujourd'hui ce type de mobile et de plaidoirie. Elle s'y refuse. Elle le dit elle-même, si j'avais plaidé le crime passionnel, j'étais acquitté. Et c'est vrai. On a beaucoup d'exemples, j'en cite quelques-uns dans mon livre, y compris parmi les plus connus, de femmes qui ont très clairement tué leur mari, avec parfois quelques circonstances atténuantes, et elles ont plaidé le crime passionnel. Elles ont été soit acquittées, c'est le cas de Madame Caillot, qui avait tué le directeur du Figaro, Calmette, de quelques coups de revolver. Elle a été acquittée. Crime passionnel. Elle dit non, je ne plaiderai pas le crime passionnel. Elle s'enferme dans une image qui est celle de la femme fière et sûre d'elle-même. Dit, mon mari était un homme détestable, je ne l'ai pas tué. On ne sait pas trop du coup qui l'a tué. Sa fille, accusée en même temps qu'elle et qui l'a aidée, elle veut bien sûr la protéger. Donc, je ne l'ai pas tué, mais on ne sait pas qui l'a tué. À un moment, on envisage un certain nombre de complices possibles, y compris de gens qui sont devenus ensuite un peu connus et qui ont été mouillés, si j'ose dire, dans ce procès ou dans cette instruction. Et par conséquent, elle sera condamnée à l'issue de coups de théâtre assez extraordinaires. Ouais. Quand j'ai dit coups de théâtre, c'est-à-dire que le procès, bon, les procès, on parle de théâtre judiciaire. Et en effet, l'apparat judiciaire, le jeu des différents acteurs fait que cela, l'enjeu également, éminemment tragique, fait que cela ressemble à un théâtre dont la vie est la scène. Et il y aura des coups de théâtre extraordinaires, ce qui fait que ce procès restera dans les annales judiciaires.
Ouais. Merci Michel Leroy. Vous avez écrit un très beau livre qui se lit comme un roman, qui est fabuleux parce qu'il présente des aspects très différents. On voyage, on va au Mexique, on revient à Paris, on voyage dans les époques. Et ça nous invite également à réfléchir à des dimensions qui sont peu souvent introspectés. Je pense par exemple au milieu pénitentiaire, donc au début du XXe siècle, comme tout à l'heure vous le disiez également, à la condition de la femme, à des aspects aussi familiaux. Hein, donc dans sa famille, il y avait l'abbé Pierre et elle, donc Madame Bassarabot, qui connaît un autre destin. Une femme assez fabuleuse dont vous mettez en avant beaucoup de ses mérites également. J'engage vraiment les lecteurs à lire, à découvrir et à lire votre livre et à en savoir plus sur cette femme impressionnante. Donc, je rappelle, de Michel Leroy, Le procès de Madame Bassarabot, La ténébreuse affaire de l'Amazone rouge, publié chez L'Harmattan. Merci Michel Leroy, à une prochaine émission.
Promises that don't last. Number of the moments lost of time past. Watch the turn of days and how they go by. Time lives in our words, in our lives. The past is the place we leave behind. Faster than the clouds blowing. Lighter than the fall of autumn leaves. Open all the doors behind me I've closed. See the shadows turn again where light grows. Against the hand of time the candle burns down. One day we'll reach higher ground. Go homeward, further than the glow of starlit skies, faster than the closing of our eyes. Ah. Faster.